Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, et chaque semaine, je t'accompagne pour t'aider à développer une activité d'indépendant qui te ressemble, qui t'inspire, et te permet de vivre ton mode de vie idéal. Cette semaine, je suis très heureux de te partager cet épisode avec Julia Couder. Ça fait plusieurs années que je suis son travail et son aventure d'indépendante, notamment au travers de ses articles et de son activité de plus en plus régulière sur Instagram. Au début de mon aventure de freelance, c'était, en tout cas dans mon champ visuel, la seule indépendante que je voyais qui prenait autant la parole sur son activité, son mode de vie et son quotidien. Et du coup, naturellement, cet épisode était gravé dans le marbre dès que j'ai lancé le podcast. Pour échanger avec Julia, vous entendrez en début d'épisode que j'ai fait quelque chose d'un peu fou. C'est l'aller-retour Paris-Clermont-Ferrand dans la journée, en train, un peu sur un coup de tête. Ça m'a pris 7 heures de train aller-retour, plus la journée de travail, vous imaginez, j'étais un peu fatigué à la fin. Mais avant de vous laisser vous plonger dans l'épisode, j'avais envie de vous partager les raisons pour lesquelles j'ai fait ça. Comme vous le savez sûrement déjà, un de mes objectifs personnels avec ce podcast, c'est d'apprendre à connaître en profondeur les freelances, leurs aspirations, leurs problématiques, comment ils vivent leur quotidien. Et pour ce faire, il n'y a rien de mieux qu'une conversation profonde et vraie, où je suis 100% dédié à eux et à leur écoute. Et du coup, vu cet objectif, ça faisait aucun sens pour moi d'enregistrer à distance. Parce que la profondeur de la relation que tu peux avoir avec les gens à distance, c'est pas du tout la même que quand tu es en présentiel. Donc oui, j'ai dépensé de l'argent pour faire l'aller-retour en train. J'ai même hésité à rester là-bas pour éviter les 7 heures de train en une journée. Mais croyez-moi, ça valait amplement le coup. J'ai passé une super journée avec Julia et sa partner in crime, Julie Breffa, avec qui elle travaille quotidiennement et avec qui elle se lance en société maintenant. On a eu des échanges super intéressants tout au long de la journée. Et voilà, c'était une super expérience, donc je suis très heureux de l'avoir fait.
sachant qu'à la base je le faisais pour vous, mes chers auditeurs. Mais bref, venons-en à ce que tu vas écouter dans l'épisode qui suit. Avec Julia, on a beaucoup parlé de contenu. Pas étonnant, elle en produit énormément depuis déjà de longues années. Et du coup, on a exploré la manière dont elle s'organise au quotidien, chaque semaine, pour produire et distribuer autant de contenu, ses rituels hebdomadaires, son état d'esprit pour rédiger des articles et du contenu de qualité. Un format qu'elle fait, que j'aime beaucoup, qui s'appelle les rapports de revenus, où elle partage de manière transparente combien elle gagne, combien elle dépense dans sa vie de freelance, et bien d'autres sujets qui sont liés à son passage en société avec Julie. Pas encore effectif ce passage en société au moment de l'enregistrement, mais aujourd'hui, ça y est, elles ont passé le cap. Comme elles disent, elles sont passées en CP. Bref, c'est un épisode très riche que je suis vraiment ravi de te partager, et je te souhaite une très belle écoute. Bienvenue sur podcast, Julia.
Merci.
Alors, pour cet épisode, j'ai fait un truc, j'ai mis une story Insta pour demander aux gens s'ils me trouvaient fou ou passionné.
Ouais.
Il y en a quelques-uns qui ont dit que j'étais fou.
J'ai voté pour fou, perso.
Ah ouais, t'as voté pour fou aussi. Bah, du coup, je fais l'aller-retour à Clermont. On est aujourd'hui à Clermont dans un super coworking que tu me présentes, qui s'appelle d'ailleurs comment?
Qui s'appelle Coworkit.
Coworkit.
Ouais.
Et du coup, on est à Clermont-Ferrand.
Oui.
Et j'étais à Paris ce matin et je serai à Paris ce soir, 7 heures de train pour venir te rencontrer.
C'est fou.
J'espère que tu te sens honorée.
Oui.
Mais du coup, ouais, je suis ravi de t'avoir. Ça fait longtemps que je me dis, ouais, il faudrait vraiment que je fasse un épisode avec Julia. Donc, nous sommes là.
Oui.
Et avant de rentrer dans le concret, il y a toujours cette petite question rituelle qui permet de lancer la conversation, qui est donc, comment et pourquoi tu es devenue freelance, Julia?
Je suis devenue freelance pour créer mon propre job. Au tout départ, je croyais qu'il n'existait que la voie salariée, comme à peu près tous les jeunes entre 15 et 20 ans, quoi. Et je me suis rendu compte, au fil du temps, au fil de mes expériences salariées, bon, j'en ai eu que deux, qui ont duré un an chacune, donc finalement pas très très longtemps, mais ça a suffi pour me faire prendre conscience que c'était pas ce que j'avais pas envie d'être bridée par une fiche de poste, et ça c'était très important pour moi de trouver en fait cette liberté là dans mes actions, parce que c'était ce qui me frustrait le plus. Et je me suis dit, ok, bah Julia, la seule façon pour que tu ne sois plus frustrée de ce que tu fais dans ta journée, c'est de créer toi-même ton propre emploi. Et là arrive la question de comment je vais faire, et où je me suis dit, bah je suis sûre que j'ai des choses dans mon cerveau qui peuvent se vendre, et c'est ce que j'ai fait, j'ai tenté.
Ouais, donc c'était l'envie de designer un peu ton métier de rêve, quoi.
Ouais, et de vraiment faire ce que j'avais envie du matin au soir, sans avoir à justifier de mes choix aussi, en étant libre de mes actions, et comment expliquer ça ? De faire en sorte de bénéficier de toutes les répercussions positives, mais aussi de faire en sorte d'en assumer les répercussions négatives aussi.
Ouais, donc effectivement, c'est un truc que j'entends souvent quand je discute avec des freelances qui se lancent. Ils se disent, bah, en fait, j'ai envie que tout le travail que je fais, ce soit ma création déjà, parce que quand on est dans une entreprise, bah, il y a 50 personnes qui font plein de petites choses, qui arrivent à une chose.
Oui.
Et là, le fait de pouvoir dire, voilà, moi, j'ai fait ça. Déjà, je trouve que c'est génial. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de freelances qui se disent, j'ai envie de pouvoir dire ça. Et ensuite, effectivement, de se dire, bah, tout ce que je fais au quotidien, c'est pour moi, en fait. C'est pour moi. Et, enfin, dans le sens, comme c'est ma création, c'est pour moi que ça revient. Mais c'est clair. Et je pense que c'est quelque chose dont tu parles beaucoup aussi dans ton contenu et dans tout ce que tu partages. C'est, il n'y a pas que des bonnes choses qui vont te revenir, il y a aussi des galères, du stress, des angoisses. On en parlait à midi avec Julie de la prochaine étape pour
c'est
vous. J'en reviendrai dessus tout à l'heure, mais c'est clair qu'il faut voir ces deux éléments, quoi. Ces deux revers de la pièce.
Exactement, mais c'est très enrichissant, les deux côtés.
Ouais, c'est clair. Bah, j'aime bien dire, tu vois, dans le coaching, on parle de pépites et de cailloux. Les pépites, c'est des trucs géniaux, genre la petite pépite d'or, et le caillou dans la chaussure.
Ouais.
Et on aime bien dire que dans les cailloux, en général, se cache une pépite à l'intérieur, si tu sais bien retourner le truc,
ouais,
et voir l'avantage.
Il faut voir le positif.
Et du coup, donc quand tu te lances, c'est en 2013.
Oui.
Ça fait déjà, du coup, 6, bientôt 7 ans.
Bientôt 7 ans.
Bientôt 7 ans.
Vite.
Ouais, ça passe vite. Et comment ça se passe, ces premiers pas? C'est quoi les premières choses que tu fais, les premières questions que tu te poses?
Alors, les premiers pas sont assez faciles parce que j'ai commencé à travailler pour Google, pour un photographe agréé Google. Donc, okay. C'est pas Google directement, c'est un photographe agréé qui est à Clermont-Ferrand, avec qui j'ai fait des visites virtuelles sur Google. Donc, je faisais toute la post-prod, etc. Donc, mm-hmm. Ça, c'était assez facile parce que finalement, mes premières factures étaient... certes toute petite, mais en attendant c'était les premières, donc d'un point de vue administratif, comptable, etc., j'ai appris petit à petit à faire ça,
ouais.
Donc ça c'était cool, et après est venu le moment où ça se termine avec Google, et où j'ai toujours ma micro-entreprise, il est hors de question que je retourne au salariat, et donc c'est là où je me dis, ok, il faut y aller maintenant,
ouais.
Et là je me dis, ok, bah, il faut que je fasse du bruit, il faut que je dise que j'existe à un maximum de personnes possibles. En tout cas, à l'époque, moi, j'avais pas du tout la conscience de ce que c'était qu'un client idéal, etc., ouais. Qu'il fallait communiquer auprès des bonnes personnes. Enfin, j'étais une enfant. J'étais une enfant qui voulait juste avoir du travail. Donc, c'était très décousu. Je me jetais dans tous les sens. Je passais des après-midi entières à me dire... bah, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai rien à faire, c'est pas normal que j'ai rien à faire. Voilà, l'horreur. Et j'ai contacté un web magazine local,
ouais.
qui m'a fait un publi rédactionnel en échange d'un chèque de 800 euros, c'est-à-dire toutes mes économies à l'époque, et qui a parlé de moi et qui a expliqué le métier de community manager parce que personne ne le connaissait en 2013.
Ouais.
Et donc, grâce à ce petit article, ça m'a permis de trouver mes 8 premiers clients.
Ah ouais, 8 d'un coup ?
8 d'un coup.
Ah ouais, c'est pas mal comme rentabilité du coup.
Ouais, c'était pas mal. Après, c'était des tout petits contrats,
ouais,
que j'ai fait courir sur plusieurs mois. C'était rien du tout, hein. C'était une centaine d'euros par client au début. Ouais. Au début, donc c'était.
Donc t'as presque juste refait ton argent en fait, ouais, pour le.
C'est ça.
Mais bon, c'était premier client, premier, voilà, témoignage, première expérience.
Exactement.
C'est trop bien.
Et j'ai l'impression que c'était il y a hyper longtemps.
Ouais.
Et en même temps, j'ai l'impression que c'était hier.
Ouais, bah, c'est déjà, dans tes stories Instagram récemment, tu faisais une petite rétrospective de, oh mon, ouais, Dieu, 2017, tout ce qui se passait, ouais, là, 4 ans encore avant, j'imagine que, pff.
C'est ça. Mais je me revois, ouais, dans ma chambre, à faire mes contrats, quoi.
Ouais.
À faire mes factures dans ma chambre chez mes parents, quoi. C'est quand même fou.
Est-ce que, tu disais, j'étais une enfant. Je sais que sur ton blog, parfois, tu parles de bébé freelance. Est-ce, ouais, que c'est ça que tu vois comme bébé freelance? C'est,
oui.
T'es au départ de ton activité, tu places un peu tes pions à droite, à gauche, tu sais pas trop ce que tu fais.
Ah ouais. Ouais. Pour moi, un bébé freelance, il plane. Mais tu sais, il assume de planer. Hein.
Ouais,
c'est la case départ un peu, quoi. Et moi, je planais complet. Hein. J'étais loin d'imaginer tout ce qu'il y avait derrière comme travail. Et je pense que j'aurais su à ce moment-là tout ce que j'aurais dû faire. Je suis pas sûre que je t'aurais dit ouais, je vais continuer. Je pense pas.
Ah ouais, tu te serais peut-être même pas lancée en fait.
Ah ouais, parce que je m'attendais pas à vivre tout ça en fait. Je m'attendais pas à vivre ces grosses montagnes russes.
C'est intéressant parce que tu vois, t'en es une des premières à défendre ça, et je vois de plus en plus de personnes qui prennent la parole sur le freelancing, qui disent ouais, c'est hyper important de montrer les inconvénients qu'il y a derrière, de montrer que c'est du travail, que c'est quand même un engagement, que c'est pas tout beau tout rose et qu'on n'est pas sur une plage en train de travailler,
oui,
ce qui est clairement le cas. Il y a énormément d'inconvénients, et en même temps là, dans ce que tu me dis, j'entends que bah, si t'avais pas un peu fantasmé le truc au début, tu te serais peut-être jamais lancé.
Ouais,
c'est intéressant de se dire bah, peut-être qu'il y a des gens, s'ils voient trop les inconvénients, ils se lancent pas, alors que ça serait parfait pour eux, ils ont juste besoin de fantasmer un peu la première année, et après, ils mettent les bouchées doubles et ils dépassent le truc.
Ouais, je pense qu'il faut être bien ancré dans la réalité et se dire pourquoi je fais ça. Moi, je le faisais pour créer mon propre emploi, pour pouvoir faire ce que je voulais toute la journée.
Ouais.
Ça, c'était vraiment, vraiment mon objectif. C'était pas l'argent. Et je pense qu'à partir du moment où t'as un objectif qui est un peu déconnant, par exemple, si tu penses à l'argent...
Ouais.
Là, tu vas te planter parce qu'en fait, on gagne pas d'argent tout de suite. Et ça, c'est une évidence. Alors, à moins d'avoir des contacts et avoir de la chance, vraiment, normalement, on gagne pas d'argent tout de suite.
Ouais, bah, je pense qu'effectivement, c'est très vrai sur le freelancing, peut-être un peu moins dans l'entrepreneuriat au sens général, mais sur le freelancing, il y a toujours une petite flamme qui s'allume qui en général va avec le concept large de liberté. Toi,
ouais,
tu le dis là, j'avais envie de créer mon activité sur mesure, donc c'est la liberté de faire ce que tu veux tous les jours et de travailler sur ce que tu veux. Et il y a toujours ce truc qui se cache, c'est genre la liberté de voyager où j'ai quand tout le temps, par exemple, ou quand j'ai envie de travailler avec qui j'ai envie de travailler, d'habiter où j'ai envie d'habiter. Je trouve que c'est toujours un truc qui revient. Et effectivement, je pense que ça donne beaucoup de puissance à l'intérieur. Ça te dit, ok, pour faire ça, je suis prêt à dépasser les challenges.
Exactement.
Je suis prêt à me planter parce que je vais me planter. Effectivement, c'est cool d'avoir cette prise de recul, de se dire, ok, j'ai un pourquoi assez fort.
Exactement, qui est suffisamment fort pour avancer.
Qui te donne un levier pour avancer, quoi. Est-ce que du coup aujourd'hui t'as l'impression d'avoir designé ton métier de rêve?
Grave.
Ouais.
Grave. À partir du moment où tu sais que tu peux travailler en pyjama toute la journée, c'est pas fantastique.
Ou en slip, comme disaient certaines personnes dans ta story Insta aujourd'hui d'ailleurs. Il y a un autre sujet dont je voulais beaucoup parler avec toi. Et d'ailleurs j'aimerais bien savoir à quel moment t'as ce réflexe-là. Tu crées énormément de contenu.
Oui.
T'es présente sur beaucoup de plateformes différentes en même temps. Tu sors des contenus quasi tous les jours. À quel moment est-ce que tu fais le switch? Parce que tu parles notamment dans ta page de vente pour ta nouvelle formation, tu dis à partir du moment où j'ai commencé à créer du contenu, c'était parce que j'avais plus envie de démarcher. Est-ce que tu peux me raconter la première fois où tu as ce switch où tu te dis démarcher, j'en ai marre? C'est quoi la suite pour moi?
En fait, ça s'est fait assez naturellement parce que du coup, j'avais deux activités. J'avais mon activité de CM et j'avais le blog.
Okay.
Et en fait, quand j'avais pas de travail en CM à faire, je bossais sur le blog.
Okay.
Et en fait, quand je dis que je bossais sur le blog, c'est-à-dire que je produisais du contenu. Et en fait, tout ce que j'apprenais, je le mettais dans un article de blog. Moi, ça me permettait de le transmettre déjà à d'autres personnes parce que moi, j'aurais aimé avoir ces contenus-là quand j'ai commencé. Donc, ça me permet d'aider des personnes. Et moi, ça me permet de ranger mon cerveau. Le fait d'écrire un article de blog ou de créer une formation, c'est comme ranger tout ce qui est dans mon cerveau dans des tiroirs.
Ouais.
Et ça me permet de faire le point. Et une fois que j'ai fini un article de blog, c'est un peu comme si, je sais pas, comme si je faisais une archive. C'est comme si je faisais un zip qui était rangé quelque part.
Ouais. Et du coup, ça l'enlève du voilà. poids disponible dans ton cerveau.
Exactement,
quoi.
Exactement.
Ah, c'est drôle.
Et c'est super important pour moi de faire le vide comme ça régulièrement. C'est pour ça que quand je sors une formation, généralement, c'est parce que j'en ai trop dans mon cerveau, en fait. C'est un trop-plein. Et que j'ai besoin de le mettre dans une formation. Donc, je cherche le point commun entre tous ces éléments.
Ouais.
Et ben souvent, ça sort en formation ou en article de blog.
Et du coup, est-ce que c'est le blog? Tu me rappelles en quelle année tu l'as commencé?
2015, je crois.
Ouais, il me semble que c'était ça. Je remontais dans tous tes articles. Je crois que j'étais arrivé à 2017. Donc effectivement, t'écrivais dans le dernier article que je pouvais lire quand j'ai commencé ce blog il y a 2 ans. Donc 2015. Ça fait sens. Est-ce que c'est cette même envie du coup où tu te dis « Je lance un blog parce que j'ai envie de transmettre ce que j'ai appris ?» C'est ça l'enjeu à la base?
C'est ça. Ouais. Et c'est toujours pareil en fait. C'est toujours pareil. Au tout début, en 2015, c'était « je veux partager ce que je vis, les bons et les mauvais moments
okay. ».
J'ai rencontré mes premiers les premiers freelances qui me lisaient et tout. On est devenus des copines, des copains, etc. Et maintenant, c'est encore plus vrai parce que j'apprends des choses et je peux les transmettre parce que j'ai la preuve, en fait, tous les jours que ça a fonctionné.
Ouais. Et du coup, à partir de ce moment-là, c'est quand le moment où, en créant du contenu de manière régulière sur ton blog, t'as commencé à te voir les résultats qui rentrent en mode ce que tu mets en avant aujourd'hui, c'est que plus besoin de prospecter, les gens viennent te contacter via ça. À partir de combien de temps est-ce que tu penses que t'as déjà eu des résultats tangibles?
Je me rends pas compte. Je me rends pas compte, mais ça a pris du temps, parce que le temps que le contenu devienne viral, temps que le contenu fasse sa place aussi d'un point de vue du référencement ou des choses comme ça, ça prend du temps d'un point de vue technique. Mais ça prend aussi du temps pour prouver que t'es là et que tu racontes pas de la merde, en fait.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose qui se travaille. Et le fait de se créer, en fait, une habitude d'écrire, si tu veux, à un moment donné, tu vois plus ça comme une tâche à faire. Tu le vois comme quelque chose qui fait partie de tes habitudes et ça devient limite un besoin. Et c'est ça qui me sauve, finalement. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je le vois pas comme une contrainte et qui fait que, du coup, j'ai pas besoin de prospecter parce que tous les facteurs, que ce soit technique, etc., sont... si tu veux, me pousse dans le même sens. Je sais pas si je suis claire.
Si, je vais rephraser pour faire si j'ai bien compris. En gros, ce que tu dis, c'est tellement essentiel, même dans ton fonctionnement personnel, de poser tout ça sur le papier et de vider ton cerveau, comme tu dis, que tu vois même plus ça comme une contrainte, en fait, de même quand il y a des bugs, tu les corriges et c'est même plus genre, oh putain, faut que j'y réécrive un article là pour mon blog, ça me saoule. Parce que ça fait juste partie de ta vie, en fait.
C'est ça. Ça fait partie du quotidien. Et du coup, toutes ces actions-là, mises bout à bout, ça vient répondre finalement à une stratégie de marketing de contenu.
Ouais.
Donc ça, j'en étais même pas consciente, si tu veux, il y a 2 ans. Je faisais ça pour le faire, en fait, parce que j'en avais besoin et parce que c'était comme ça. Et petit à petit, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais, ça avait un nom, en fait. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que tout ce que je fais, en fait, ça porte un nom.
Ouais.
Et tu sais, c'est un nom marketing et tout. Ouais, et ça, ça me fascine parce que je suis là. Mais Julie, en fait, on était en train de faire du marketing de contenu. On ne savait même pas. Et c'est assez fou, en fait, de se rendre compte de ça.
Ouais.
Et ça prouve que tous les jours, tu peux grandir encore un peu.
Mm.
C'est-à-dire que t'as beau... on va passer en CP. Mais on apprend encore des trucs. Et on se dit, putain, mais c'est des trucs, c'est évident. On est con, pourquoi on n'a pas réfléchi avant? Mais juste, en fait, ça nous suit. Ça suit notre évolution.
Ouais. Quand tu dis on va passer en CP, juste pour les auditeurs qui comprennent pas l'inside joke, c'est parce que vous passez bientôt en société. C'est votre avocat ou votre comptable qui vous a dit ça?
C'est notre avocat. Ouais, c'est notre avocat.
Il a dit c'est un peu comme passer en CP, passer d'une classe à l'autre.
Exactement.
Mais c'est intéressant parce que effectivement, même la conversation qu'on avait en venant dans le coworking du déj, c'était que tu disais, que t'allais pas non plus forcément énormément te nourrir de contenu extérieur. Que t'étais pas dans une démarche où tu vas te former, et que tu faisais les choses assez intuitivement.
Oui.
Et que du coup, tu tombais sur « Ah tiens, je fais de la stratégie de contenu » ou « Ah tiens, je fais du marketing de contenu » alors que tu le fais depuis un moment. Ce que je trouve trop bien là, et grande chose que je pense que les auditeurs peuvent retirer, c'est en fait les réponses, on les a quelque part déjà en nous.
Ouais.
Si on réussit à se connecter assez à notre intuition ou à on se dit tiens ça c'est la bonne démarche pour moi, en fait on sait déjà quoi faire.
C'est exactement ça. Moi j'apprends des choses en fonction de ce dont j'ai besoin. J'ai toujours fait ça, c'est-à-dire je suis pas une formation pour suivre une formation parce qu'il faut la faire. Je suis face à un problème dans mon quotidien et je me dis ah ça je sais pas le faire, qui va pouvoir me donner la réponse? Donc soit je trouve une formation, soit je trouve un article de blog, voilà, quelque chose qui vient répondre à ma question tout de suite. Et en fait, plus j'avance, plus je trouve des petites questions, voilà, qui arrivent et où du coup je me forme, etc. Mais c'est jamais, si tu veux, c'est jamais lié à une mode ou un truc comme ça, tu vois. C'est toujours par rapport à un besoin que j'ai, soit pour moi tout de suite, soit pour mes clients.
Ce qui du coup fait qu'avec le temps, ça structure de manière très cohérente tout ce que tu fais parce que à chaque fois c'est ah tiens, j'ai tel challenge, comment j'y réponds? Ah tiens, j'ai tel challenge, comment j'y réponds? Et ouais, du coup, ton cheminement, il est très logique au final.
C'est ça. Enfin, ça suit ma vie.
Ouais.
Tu vois, de freelance et d'entrepreneur, ça, ça suit.
Je suis passée
à la TVA, j'ai été en PLS de la TVA, j'ai fait un article sur la TVA pour dire que à quel point j'en avais fait des montagnes, alors qu'en fait, c'était hyper simple.
Ouais, en partageant le petit mail que t'as envoyé.
Voilà. C'est ça.
Et maintenant, aujourd'hui, c'est le passage en société où t'es en PLS et tu partages un peu de contenu là-dessus.
Exactement.
Et j'imagine qu'il y aura un article de blog bientôt.
Ouais, je pense qu'il faudra plus qu'un article de blog pour parler de tout ça. Je pense qu'il en faudra plusieurs. Et puis, c'est surtout que je pense qu'il va falloir qu'on le vive, qu'on le digère. Avant de pouvoir se dire, OK, qu'est-ce qu'on en retire et qu'est-ce qu'on peut,
partager,
diffuser comme message.
Ouais. Complètement. Et du coup, question qui va sûrement être énorme et on va la déconstruire petit à petit, mais comment tu fais pour être aussi présente partout, sur autant de réseaux, de manière aussi régulière?
Organisation. C'est très facile.
Ouais.
C'est vraiment très facile.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Quoi, c'est très facile, mais moi, j'arrive pas. »
C'est très facile. C'est juste de l'organisation et c'est de l'organisation de production de contenu.
Donc, ça ressemble à quoi?
Ça ressemble à faire un planning édito. Et on se dit où est-ce qu'on veut être présent, pourquoi aussi. Il faut que ça ait un sens, sinon on n'arrivera pas à écrire.
Forcément.
Et il suffit juste de faire un planning et de le respecter. Donc avoir suffisamment de rigueur pour le respecter, ça c'est important.
Ouais.
Sans rigueur, on fait rien, jamais. Donc ça c'est très important. Et pourtant, j'en avais pas à l'école. Hein. Donc c'est preuve qu'on peut tous avoir de la rigueur à un moment donné.
Si on a un pourquoi assez puissant.
Exactement. Si on sait pourquoi on est là, c'est sûr que ça fonctionnera.
Mm.
Et arriver à produire ce contenu pour venir répondre à ce qu'on s'est fixé dans notre planning édito.
Mm.
Et juste après, il faut travailler.
Faut faire quoi.
Voilà, faut faire les choses.
Ouais. À toi, du coup, ça ressemble à quoi, du coup, ton rythme de production de contenu? Je sais que de ce que je suis sur tes réseaux, tu batches pas mal. Quand je dis batch, ça veut dire genre tu fais tout d'un coup et tu planifies sur la suite.
Exactement.
C'est quoi genre une journée type? Est-ce que tu fais genre tous tes articles de blog du mois dans une journée? Tu fais comment?
Alors les articles de blog, c'est particulier parce que il faut que j'ai l'inspiration et que je sois dans le mood de rédaction. Quand je suis dans le mood de rédaction, je sais pas si toi ça te le fait ou si t'as déjà vécu ça, mais des fois quand je lis un article de blog que j'ai écrit il y a longtemps, je me dis, ah ouais, c'est moi qui ai écrit ça. C'est comme si au moment où j'écrivais, j'étais en dehors de mon corps, tu sais, ouais, un peu comme en transe. C'est très bizarre. Et donc, j'attends en fait de ressentir ce moment-là pour pouvoir écrire. Mmh. Parce que si j'attends pas ce moment-là, ça se sent que je me suis forcée à l'écrire, l'article de blog, tu vois.
Et comment tu fais du coup pour organiser le fait d'avoir de l'espace où quand tu sens cette inspiration, tu te dis, ok, it's time, article de blog.
J'ai deux demi-journées dans ma semaine qui sont dédiées à la production de contenu sur le blog.
Okay.
Donc, dans production de contenu, il y a les articles de blog, il y a les visuels Instagram, il y a les visuels Instagram Story, mm-hmm. il y a les visuels Pinterest, il y a les posts pour les réseaux sociaux, bref, il y a toute la production de contenu, en fait.
Okay.
Et c'est des demi-journées qui sont bloquées, qui sont comme ça. Et où, en gros, je fais ce que je veux. Okay. Si j'ai envie de faire une demi-heure de story, je le fais. Si j'ai envie de faire 2 heures de rédaction, je le fais. Si j'ai envie de faire 4 heures de rédaction, je le fais.
Ouais. C'est... Et du coup, dans cette demi-journée, en fonction du moment où l'inspi arrive, c'est ok, j'arrête tout le reste, c'est l'article qui sort maintenant.
Voilà.
Quoi. Ok, c'est intéressant. Parce que moi, je trouve que c'est important, effectivement, de... Tu vois, il y a ce truc, on en parle de plus en plus, de dire c'est important de créer du contenu, il faut être présent, il faut parler de ce que tu fais, il faut documenter ta vie et expliquer tes processus, etc. Mais je pense que ce qu'on ne dit pas assez, c'est il faut que tu trouves ton rythme pour le faire. Parce que si t'essaies de respecter le rythme qu'on t'impose ou « Ah tiens, Julia et batch ces trucs, c'est 2 demi-journées par semaine, faut que je fasse la même chose. »
Ça marchera pas.
Et que c'est pas ton rythme, ça marchera pas en fait.
Non, parce qu'on a tous des impératifs. Par exemple, Julie, tu vois, elle a une fille, donc elle doit s'adapter à sa fille. Moi, j'ai pas d'enfant et je mange des gnocchis, donc si tu veux, mes repas, ils prennent un quart d'heure. Donc ça aussi, ça joue sur mon emploi du temps.
J'adore comment tu places les gnocchis, ton personal branding, genre tu l'as dit au moins 3 fois depuis ce matin. C'est... On ravache les choses. Les gnocchis, ça fait partie de ta marque.
C'est très important. Et tout ça, en fait, ça dépend vraiment de chacun. On a chacun une vie différente, donc il faut absolument se mettre d'accord sur ce qui doit être présent dans notre semaine. Moi, par exemple, si j'ai besoin de jouer aux jeux vidéo et de manger des gnocchis, ça, c'est des choses qui ne changeront pas et je vais faire mon travail en fonction de ça. Il y en a qui ont une famille, qui ont une vie de famille, ils vont faire leur travail en fonction de ça.
Ouais, ouais, et moi, je trouve aussi... en m'observant de plus en plus, parce que bah, du coup, ça, c'est une pratique de s'observer et de voir, ah tiens, ça, c'est vraiment important pour moi ou là, je suis vraiment plus productif, bah, j'apprends à organiser ma création de contenu pour la mettre à l'endroit où je suis plus productif et où j'ai les meilleures idées. Par exemple... ce matin, j'avais une newsletter à écrire et je l'ai fait dans le train à 7h du mat parce que juste, j'étais trop inspiré, quoi. Et je crois que j'ai écrit une des meilleures newsletters que j'ai jamais faites ce matin dans le train
c'est exactement ça.
À 7h du matin parce que j'avais le flow, quoi.
Tu sais que mes newsletters, celles qui sont les meilleures, c'est celles que j'écris en 5 minutes chrono.
Ouais.
C'est-à-dire que je suis là,
je sais ce que je raconte.
C'est ça. Et ça prend 5 minutes et elle est hyper longue alors que, tu vois, je pense que j'aurais voulu la faire. Je me serais dit, voilà, Julia, de...
Qu'est-ce que tu fais raconter,
c'est
Julia?
C'est ça.
Alors creuse-toi la tête.
Exactement. Ouais. Et ça, c'est horrible parce que des fois, je suis bloquée devant mon Trello et je suis là. Qu'est-ce que je vais dire dans la newsletter de dimanche? Et en fait, dans ces moments-là, je sais au fond de moi que j'y arriverai pas. Ça sert à rien.
Ouais.
Ça sert à rien, c'est de la perte de temps pour le coup.
Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre... Et je pense que toi, t'es arrivé à ce niveau-là parce que... T'as tellement pris ce réflexe de régularité que c'est devenu ta norme. Quand t'es au début de la création de contenu et que tu te dis chill out, j'attends l'inspiration.
Non, ça peut pas marcher.
Je pense que ça peut pas marcher parce que au final, tu t'es pas entraîné et t'as pas entraîné ton cerveau à repérer l'inspiration et l'exploiter quand elle arrive. Du coup, je pense que c'est un équilibre à trouver entre avoir la rigueur de te dire je m'assois, j'écris, même si c'est nul ce que j'écris, j'écris ou je pose des idées, je m'entraîne à sortir des trucs. Et avec le temps, quand t'auras cet entraînement et cette norme, bah, ça sera beaucoup plus facile de te dire, ok, dès que j'ai une idée, boum, je m'assois, je la sors. Et je pense que c'est trouver un équilibre entre j'attends l'inspiration, mais pas en mode je fais rien s'il y a pas l'inspiration, et je produis un peu en mode robotique, mais dans le sens j'ai des créneaux et j'ai mes rendez-vous de création.
Ouais.
Mais tout en gardant l'équilibre entre les deux, quoi.
C'est pour ça, moi, je préfère me planifier des grandes demi-journées.
Ouais.
Parce qu'au moins, je me mets pas la pression. Je me mets pas la pression de me dire, je dois pondre un article là, de 13h à 14h, quoi, tu vois. Parce que alors là, non, on n'y arrive pas, c'est pas possible. C'est pas possible.
Sachant encore une fois que ça, c'est ton fonctionnement, et il y a plein de gens qui en ont d'autres.
C'est vrai.
Et qu'il faut réfléchir à mon fonctionnement, c'est quoi.
Ouais.
C'est cool. Et du coup, à part ce rituel-là de la demi-journée de création de contenu, est-ce que t'as d'autres rituels dans ta semaine, ou dans ton mois, ou dans ta journée, pour organiser un peu tout ce que tu fais, parce que tu fais énormément de choses? En plus de jouer aux jeux vidéo et manger des gnocchis.
J'en ai plein. J'en ai plein, j'ai un rituel chaque jour presque.
Tu peux nous partager quelques-uns qui ouais. t'aident le plus ?
Par exemple, le lundi après-midi, je fais tous mes posts Instagram de la semaine, okay. puisque j'en poste un par jour tous les soirs à 18-19h. Donc je fais tous les posts Instagram de la semaine, et je n'arrête pas tant que je suis pas arrivée au dimanche soir. Mmh. Parce qu'il m'est arrivé de me dire, allez, vas-y Julia, t'y arrives plus, et tu vois, il me manquait le post de samedi et de dimanche. Je me suis retrouvée samedi à 18h à me dire, bah pourquoi y a rien ? Mmh. Et à me dire, oh, merde.
Parce que j'avais repoussé.
Voilà, et donc ne surtout pas ouais. repousser.
Donc là, on revient sur la rigueur de, même rester sans inspiration, organisé. Si je me suis engagée, je m'engage quoi.
Voilà. Donc le lundi après-midi, je fais ça tout le temps. C'est-à-dire lundi après-midi, tu m'appelles, tu me demandes ce que je fais, je te répondrai toujours la même chose.
Depuis combien de temps ?
Depuis un peu plus d'un an maintenant.
Wow.
Donc tous les lundis, c'est ça. Tous les lundis soirs, il y a mon article de blog qui sort à 18h. Donc à 17h50, je fais plus rien. Genre, je m'arrête de faire tout ce que je faisais. Et je vais vérifier que tout va bien, que tous les liens fonctionnent, etc. Ouais, pour que quand pas... à 18h... ce soit nickel.
Que la programmation WordPress n'est pas buggée et voilà, que ton article ne sorte pas.
C'est 10 minutes de vérification. Mmh. Ça, c'est tous les lundis aussi. Qu'est-ce que je fais par mois, par exemple, tous les premiers du mois, c'est la facturation de mes clients et les statistiques pour les réseaux sociaux.
Okay.
Ça, c'est systématique. Ma facture, elle n'est jamais envoyée un 2 ou un 3 du mois, à moins que ce soit le week-end. Mais ouais. sinon, c'est systématiquement le premier jour du mois.
Est-ce que c'est là où tu crées aussi tes rapports de revenus ? C'est tous les premiers ?
Non, les rapports de revenus, je sais quand est-ce qu'ils sortent
okay.
en avance. Donc, je connais la date. Et je peux pas trop les faire en avance, ceux-là, parce qu'ils dépendent bah, vraiment ouais. de mon compte en banque. Quoi. C'est-à-dire
je
prends
que
mon compte
ouais.
en banque quand je le fais. Donc, je prends mon compte en banque, je regarde tout ce qui est rentré dans le mois, etc. Donc, je le fais le plus tard possible. Hmm. Mais il faut pas que ce soit trop tard non plus.
Okay.
Parce qu'il faut que je me laisse le temps aussi d'écrire et de faire le point sur ce qui s'est passé, etc.
Donc, c'est une de ces demi-journées dédiées à la création
non.
de contenu.
Ah, non. Là, c'est carrément un autre créneau hmm. où je me cale 2 heures. Aux alentours, je dirais du 27-28 du mois, à okay. peu près. Et où là, je fais le point sur les chiffres. Donc, je prends mes comptes en banque, je regarde tout ce que j'ai dépensé, tout ce que j'ai gagné, etc. Je fais mes petits calculs. Et après, je me pose et je me dis, OK, Julia, alors maintenant, là, tout de suite, tu ressens quoi ? Parce que c'est vraiment ça qui compte.
Ouais.
C'est ce que je ressens au moment.
Ouais. Comment est-ce que ce mois-ci s'est passé pour toi
voilà.
dans ton ressenti, quoi ?
Exactement. Et après, donc celui-là, c'est celui qui est écrit au dernier moment, quoi.
Ouais.
Parce que sinon, il serait pas juste.
Bah oui, forcément.
Voilà.
Bah, ou alors tu ferais des projections, mais c'est pas non plus l'objectif de cet article. C'est quoi du coup, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais bien revenir dessus parce que on se questionnait ce midi sur est-ce qu'il y a d'autres gens en France qui font ça ? Et moi j'en ai pas vu et j'ai l'impression que t'en as pas vu non plus. C'est quoi la première fois que tu te dis je vais faire des rapports de revenus ? Il se passe quoi dans ta tête ? C'est quoi, qu'est-ce que tu te dis ? Pourquoi tu t'es décidé à faire ça ?
Je me le suis dit en voyant un rapport de revenus d'une américaine, comme on disait ce midi, qui partageait voilà ses dépenses. Et, ouais. et moi, c'est ses dépenses, en fait, qui m'intéressaient. Parce que je me rendais compte, je me disais, ouais, elle met autant d'argent là-dedans, c'est que ça doit être super bien.
Ouais.
Et c'est ça qui m'a fait découvrir des outils, qui m'a fait découvrir des techniques, qui m'a fait prendre conscience de l'importance de certaines choses par rapport à d'autres, qui ont enlevé des croyances que je pouvais avoir.
Ouais.
Et au final, je me suis dit, bah, vas-y, j'ai trop envie de faire pareil. Et je me suis posé la question, est-ce que je les garde pour moi ou alors est-ce que je les publie sur le blog ? Et en fait, je me suis dit, j'aurais trop aimé avoir ça quand j'étais...
Ouais,
quand j'étais
bébé
jeune,
freelance.
Quoi. Ouais, c'est ça, quand j'étais bébé freelance, j'aurais trop kiffé avoir ça pour me rendre compte de tout ça. Parce qu'on n'est pas forcément... Tu vois, on n'a pas forcément le réflexe d'aller voir ce que font les Américains.
Ouais.
On essaie de voir ce qui se fait dans notre langue, déjà de base, c'est humain. Et j'aurais bien aimé avoir ça, moi, en France, au tout début.
Ouais,
donc,
clair.
Je me suis dit, bah, vas-y, je vais le faire. De toute façon, qu'est-ce que je m'en fous. Je vais pas mentir ou quoi. Ça sera juste les faits. Et moi, ça m'aide beaucoup.
C'est vrai que je pense, on a beaucoup à, moi, je consommais énormément de contenu américain aussi. Parce que, bah, rien que sur le marché du freelancing, entre guillemets, ils sont bien plus en avance que nous parce que, bah, ça fait des années où c'est devenu une norme. Et donc, bah, les réflexions sont plus poussées sur le sujet que ce n'est en France, même si ça commence à bourgeonner et à décoller. Le fait qu'on soit de plus en plus nombreux à prendre la parole dessus en est signe. Mais ouais, c'est clair, moi aussi, je suis des entrepreneurs ou des indépendants américains qui partagent leurs revenus et je me dis, ouais, c'est super intéressant, quoi. Et sur ce truc de dépenses, du coup, ça fait combien de temps que tu fais cet article ? D'ailleurs, ça fait bien plus d'un an maintenant, je
ça
crois
fait,
aussi.
Ça fait 2 ans, je crois.
2 ans. En observant tout ça, du coup, depuis 2 ans, tous les mois, est-ce que tu vois des tendances en te disant bah tiens quand j'ai dépensé quand j'ai investi sur ces choses-là, quel type de dépenses, du coup on va parler de dépenses parce que c'est ça qui t'intéressait. C'est quoi les dépenses les plus importantes que tu vois dans ta vie de freelance depuis ces deux dernières années?
La sous-traitance.
OK.
De confier des choses que moi je ne sais pas faire à des personnes qui savent le faire, ça m'a fait gagner du temps plutôt que d'essayer de le faire. Mmh. Parce qu'au tout début quand tu débutes, tu fais tout, tu es obligé d'être au four et au moulin. Et sauf qu'au bout d'un moment, quand tu gagnes un petit peu d'argent, tu peux prendre le recul de te dire « Attends, je vais gagner du temps, je vais le confier à quelqu'un qui sait le faire, qui ira bien plus vite que moi, et moi, pendant ce temps, je vais faire autre chose. »
Ouais.
Et ça, ce réflexe-là, ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé sur pas mal de choses, ça m'a fait décoller sur pas mal d'autres choses aussi. Enfin, c'est... On va dire que tout est mélangé, mais la grosse tendance, c'est que depuis que j'ai appris à faire ça, déjà, j'ai appris à faire confiance à d'autres personnes. Mmh. J'ai appris à me rendre compte que finalement, il y avait des gens qui étaient très très cool et qui travaillaient très très bien dans d'autres domaines et dont je pouvais me servir aussi pour bah voilà, pour professionnaliser ma présence sur le web, ouais, etc. Et ça, c'est super important parce que l'impact, finalement, il est un peu flou, mais il est aussi à la fois très clair. J'ai vraiment gagné en professionnalisme. Mon site ne bug pas. Dès qu'il y a un petit bug, c'est réglé en 3 minutes parce que... Ouais. Voilà, parce que Cyril, mon webmaster, il fait le taf en 3 secondes.
Ah, donc t'as un webmaster aujourd'hui? Ok. Et, ah, c'est cool, ça.
Et en fait, c'est, voilà, c'est une sorte de sécurité aussi. Tu sais, ça me permet de rester zen et de pas me stresser au moindre bug. Je sais qu'il y a quelqu'un qui gère, quoi.
T'as quoi comme profil, du coup, en sous-traitance, entre guillemets, même si le terme peut paraître sous-traitance, enfin, c'est pas forcément le plus sexy, mais des c'est... freelances qui travaillent pour toi sur tes sujets. T'as quoi comme profil, du coup, un webmaster?
J'ai un webmaster, j'ai donc une illustratrice qui illustre tous mes rapports de revenus, Mathilde, que j'aime trop. J'ai Cyril, mon papa business, c'est un autre Cyril, qui lui a un profil un peu particulier, qui a à la fois une casquette de coach, mais qui est pro, si tu veux, de la conversion, de tout ce qui est chiffres, etc.
Okay.
Et ça, c'est une... Moi, j'y suis sensible, mais je pense pas assez.
Ouais, donc lui, c'est un peu web marketing, tunnel de vente, tout ces trucs-là, quoi.
Parce que moi, je brasse beaucoup de chiffres, mais je suis pas encore assez mature pour vraiment me dire « Ah, ça, c'est bon, ça, c'est mauvais. »
Ouais.
Tu vois, alors que lui, il est là pour pointer du doigt ce qui va et ce qui va pas.
Donc j'imagine qu'il t'accompagne pas mal sur les formations et ce genre de trucs-là.
Là, il commence, ouais. Okay. Ouais, tout doucement.
Ok, cool. Et c'est tout?
Je réfléchis et après ça concerne du coup tous les clients en social media.
Okay.
Là pour l'instant on a commencé à travailler avec personne voilà de vraiment
régulier quoi.
Voilà, de vraiment régulier pour le moment mais ça va venir.
OK.
On a que du coup notre petite Célia, enfin je dis petite alors qu'en fait elle est pas petite du tout mais voilà qui bosse avec nous, qui partage des clients avec nous, qui a été la première à qui on a fait confiance et dont on est trop trop contente avec Julie donc
cool.
Voilà. Mais on n'est pas beaucoup pour l'instant.
Ouais. Mais c'est intéressant, je trouve, c'est toujours un cap que tu passes quand tu te dis OK, là mon temps devient beaucoup plus précieux que l'argent que je pourrais gagner en le faisant moi-même. Et que tu commences à avoir cette réflexion de « Ok, faut que je délègue, faut que je sous-traite, faut que je travaille avec d'autres personnes. » Et effectivement, quand tu arrives à ce cap-là, tu peux accélérer encore plus vite qu'avant. Tu vois, il y avait un article que je lisais en faisant mes recherches sur ton blog où tu parlais de quand tu avais commencé à travailler avec une assistante virtuelle. Pardon. Et moi, c'est une question que je me pose depuis un moment, encore une fois en regardant les Américains qui le font pour beaucoup. Et je me suis demandé « Tiens... » Mais d'ailleurs, de manière très personnelle, je vais te poser la question. C'était comment? Qu'est-ce qu'elle faisait pour toi? Qu'est-ce que t'as retenu de cette expérience? Et du coup, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas continuée aujourd'hui?
C'était nul, mais c'était ma faute.
Ok.
parce que c'était pas cadré. C'était tu vois, c'était pas préparé dans mon cerveau.
Donc c'est peut-être trop tôt, quoi.
Ouais. Et en même temps, franchement, je dirais pas non, tu vois, un soutien. Mais je crois que je suis pas prête, moi, psychologiquement, tu vois, à déléguer des choses.
Parce que du coup, c'était quoi que tu envisageais qu'elle fasse pour toi, cette personne?
Toutes les choses qui ne nécessitent pas mon cerveau.
Okay.
Donc, tout ce qui est en dehors de la rédaction, de tout ça, c'était possible. Par exemple, la gestion de mon compte Pinterest, la veille, tu vois, sur des sujets en particulier, pour pouvoir écrire un article de blog très poussé sur un sujet, par exemple. Et au final, je fais pas assez confiance. Parce que tout le temps, j'étais là en train de me dire... Ouais, mais est-ce qu'elle est allée au bout du truc quand même?
C'est intéressant, hein. Je pense qu'il y a vraiment ces questionnements qui arrivent quand tu commences à sous-traiter. C'est Ah, est-ce que je suis vraiment à 100% confiant de lâcher ce truc-là?
Ouais.
Ouais, c'est intéressant. Hein. Je pense que t'as l'air.
pour certains profils, en plus, pour la création de contenu notamment, tu vois, moi, il y a une question que je me pose pour ce podcast très peu de montage, mais on est un petit groupe de 3-4 amis, on a tous un podcast et on réfléchit ensemble à se dire est-ce qu'on délèguerait pas la partie production, tu vois.
Ouais.
Des gens qui montent, qui éditent le son, qui font un peu de sound design pour que ce soit propre. Et il y a une part de moi où je me dis, est-ce que je suis prêt à lâcher cette partie-là parce que j'ai envie d'être garant de la qualité quand même.
Et
du coup, effectivement, c'est une réflexion intéressante, ce truc de confiance, quoi.
C'est très dur. Ouais, je pense que j'en parlerai bientôt, mais c'est très dur.
Ouais. Il y a un autre truc du coup qui vient derrière tous ces contenus, parce que j'imagine que tu commences par les contenus, tu commences à prendre la parole pour les freelances, pour les accompagner, et à un moment tu sors une formation.
Oui.
D'ailleurs, c'était quand la première formation, la date et le sujet, je me souviens, c'était Pinterest la première formation, je crois.
Alors la vraie première, c'était Trello.
Ah oui. Et Pinterest est venu après, et t'as re-updaté Trello derrière.
C'est ça, j'ai re-updaté, et après il y a la dernière qui est sortie cette année. Voilà.
Et Trello, c'était à quelle date?
Trello, c'était en 2017.
Okay.
Fin 2017.
Du coup, c'était quoi la réflexion quand tu te dis, OK, contenu DAC, maintenant formation. C'est quoi la réflexion? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand...
Je veux vider mon cerveau.
Ouais.
Je veux vider mon cerveau de ce que je connais sur Trello. Je le vide dans une formation avec chapitre 1, 2, 3. Mmh. C'est les tiroirs de mon cerveau. Et c'est rangé.
OK.
Et dès que... Enfin, c'est ce qui est bien avec Trello, c'est qu'en fait, c'est une formation qui va me suivre. Parce que dès que je vais créer un nouveau tableau, je vais me dire, oui, pourquoi je le garderai pour moi? Je vais le partager.
Donc, tu mets à jour, quoi.
Donc, je mets à jour.
Et du coup, de fil en aiguille, t'en as créé plein d'autres. Aujourd'hui, quand tu regardes ton business,
ouais,
il y a un équilibre entre ce que tu fais pour tes clients et tout ce que tu crées pour les freelances et cet accompagnement-là. Je sais que t'aimes pas trop te projeter dans le futur. Il y a une question qui arrive derrière pour te titiller là-dessus exprès. Comment tu te positionnes aujourd'hui par rapport à ces deux éléments dans ton activité?
Alors, pendant une période, je voulais que les formations prennent le pas sur les clients social media.
Ok.
Parce que j'en avais marre de faire du social media jusqu'à ce que je rencontre Julie.
Mmh.
Là, tout a changé. Tout a changé, elle m'a redonné le goût en fait à tout ça. Donc finalement, je me suis dit je vais garder les deux. Et pour le moment, je crois qu'on est en termes de chiffres, on doit être à 70-30, okay. 70 pour le social media et 30 pour les formations. Mais plus le temps passe, plus il est possible que les formations prennent le pas sur le social media, c'est possible.
Et dans tes envies personnelles, ça pousse plutôt de quel côté, si tu sais
Mes envies personnelles, j'ai envie de garder les deux. Parce qu'en fait, le social media me permet de garder les pieds sur terre et d'être freelance, vraiment. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens de donner des formations pour les freelances si t'es pas freelance toi-même.
Je suis entièrement en raccord avec cette vision.
Et du coup, j'ai envie de garder le pied là-dedans, en fait, parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. J'ai rien dit en 2 ans presque sur ce blog.
Clair.
Enfin, c'est-à-dire, j'en ai dit beaucoup, et à la fois, je suis jamais... on n'aura jamais fini.
Dense, quoi.
Donc, j'ai encore envie d'être dans cette vie-là. J'ai encore envie de rencontrer des galères ou de lire les galères des autres aussi pour pouvoir en parler et de dire comment moi, je les ai peut-être esquivées. Enfin, il y a encore un million de trucs à dire.
Je partage vraiment cette vision-là de se dire, en fait, comme l'écosystème des freelances se développe de plus en plus, forcément, il y a de plus en plus d'acteurs qui parlent au freelance.
Oui.
Et notamment des plateformes, des startups. Et quand t'as créé du contenu pour les indépendants, il y a une part de moi qui me dit... Mais en fait, les gars, vous êtes des start-upers. Vous connaissez pas réellement le terrain, en fait. Et je pense que là, c'est aussi une des raisons pour lesquelles des gens comme toi ou les gens qui écoutent ce podcast qui me font des retours apprécient le contenu. C'est parce qu'on vit la même vie que ces gens-là, quoi. Et du coup, on a un autre niveau de compréhension qui est beaucoup plus dense. Et je pense que ta communauté apprécie énormément ça parce que c'est la transparence sur tout ce qui se passe dans ton quotidien, les galères, comment toi, tu te sens là-dedans. Et les gens s'identifient, en fait. Ils se disent, mais c'est la même, quoi. Moi aussi, je ressens ça.
Ouais. Et c'est assez fou parce qu'au final, je ne fais rien d'autre que de raconter ce que je fais.
Ouais.
C'est tout.
Ouais. Et ce qui est dingue, parce que, au final, il y a tellement peu de gens qui le font.
C'est vrai.
Tu vois, j'ai un ami qui crée beaucoup de contenu en ce moment. Il parle beaucoup de marque personnelle. Et il dit, en fait, rien que parler de ce que tu fais, documenter ton quotidien, expliquer ce que tu vis, comment tu te sens par rapport à ça, tu fais déjà partie de 1% des gens sur l'internet et tu te démarques.
Ouais.
Alors que t'as rien fait d'incroyable, quoi.
C'est ça, mais on a besoin de lire le récit en fait d'autres personnes,
ouais,
qui soient positives comme négatives. Et d'ailleurs, des fois, on a besoin de lire du négatif pour se dire ah mais en fait moi je vis la même chose et c'est normal.
Ouais.
Tout va bien, je suis normale.
Tout va bien. Ok, c'est bon. Je suis angoissée par ça, mais les autres aussi, c'est pas une crise. Bah, d'où le dernier épisode du podcast, c'était avec une illustratrice qui a beaucoup de visibilité et qui me dit sur le podcast, en fait là, plus j'avance, plus je doute. Alors qu'il y a des gens au début, ils doutent, etc. Ils se disent, c'est pas normal, je devrais pas douter.
Alors que c'est l'inverse.
Mais dans 15 ans, tu douteras encore, en fait. Ouais. Donc, juste jouer avec ça.
Il faut être conscient qu'on sait pas de quoi demain sera fait et qu'en tant qu'indépendant, on ne le saura jamais.
Jamais vraiment.
Jamais.
Très bonne transition.
C'est vrai.
J'étais sur ton article, sur ton blog, oui. Du coup, ce matin, dans le train, je faisais ma petite recherche et je remontais dans les archives. Et je tombe sur un article de mai 2017 qui est intitulé « Je ne sais pas où je serai dans 5 ans
ah ouais.
et je m'en fous
ouais. ».
Du coup, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat,
ouais.
sachant que tu passes en société en plus maintenant.
Ah là là.
Tu te projettes comment dans ton business dans les 5 prochaines années ?
Je me projette toujours pas. C'est-à-dire que je serais capable de réécrire cet article...
Mot pour mot ?
Ouais. Parce que, comme je l'explique, je crois, enfin de toute façon, je l'ai pas inventé, c'est pas du fake, donc tout va bien, mais je suis capable de te le redire, mais... dedans je dis, il me semble, et ça sera enfin voilà, c'est toujours le cas en 2019, si je choisis ce que je veux faire dans 5 ans, ça veut dire que je me ferme des portes à tout ce que j'imagine même pas et je veux surtout pas, parce que tu m'aurais posé la question il y a 5 ans d'où je serais aujourd'hui, jamais j'aurais cru que j'allais rencontrer Julie avec qui ça ouais. tu vois que ça a matché de ouf, genre jamais je me serais imaginé tout ça. Et je pense que ça ferme des portes de trop se projeter.
Donc t'as l'impression que ça te met un espèce de plafond de verre, quoi.
Ouais, mais je suis aussi consciente qu'il faut savoir se projeter, parce que si tu sais pas où tu vas nulle part.
Ouais.
Donc j'essaie de jouer entre mes deux humeurs, tu vois, sur le sujet, et à me dire, Julia, quand même, fais un effort,
ouais.
essaie de voir ce que tu peux faire. Donc avant, je me projetais à 3 semaines, après je me projetais à 3 mois, et là, on est entre les 3 et les 6 mois, tu vois. Mais c'est loin d'être les 5 ouais. années, quoi, que tu me demandes.
Ben, tu vois, moi, j'ai une histoire que j'aime bien raconter quand je parle de ce sujet-là sur la vision et tout ça. Parce que c'est un outil que j'utilise beaucoup avec mes clients en stratégie de marque, notamment. Et je suis convaincu que c'est aussi important pour les indépendants. Où je dis, imagine que tu montes dans un taxi. Et que le chauffeur te demande, OK, on va où? Et que tu sais pas lui répondre et que tu dis rien. Il y a 99% de chances qu'il t'emmène quelque part où t'as pas envie d'aller.
Ouais, c'est sûr.
Alors que si t'as un cap et que tu sais où tu vas, d'une part, toi, ça te donne une direction et ok, bien sûr, elle est peut-être floue ou pas du tout réaliste par rapport à tout ce que tu pourrais faire en plus. Mais du coup, ça donne aussi un champ de réflexion à ton cerveau de dire ok, ce qui est important pour moi à l'instant, et forcément, faut le réviser avec le temps et faut pas non plus dire voilà, c'est ma vision, je ne changerai rien dans les 5 prochaines années.
Ouais.
Et au fur et à mesure des découvertes, tu vois, avec Marie, on parlait de coaching tout à l'heure quand on était au déj, on aime bien dire que tu découvres ta vision et ta vie par petits pas, comme un enfant qui joue à chaud-froid.
Ouais.
Et au fur et à mesure de ces découvertes, ta vision, elle change, elle s'affine, mais tu gardes une direction générale. Tu vois, si tu te dis, voilà, j'ai envie d'aller sur cette île qui est là-bas, si tu te mets sur une plage et que tu dis je vais vers cette île par là-bas, mais tu vas peut-être commencer à y aller, ah tu vas tomber sur une île à côté et te dire ah ouais mais c'est cool ici, ah mais j'apprends un nouveau truc, du coup c'est peut-être pas cette île-là, c'est celle-là, et tu affines au fur et à mesure. Donc effectivement, je pense que c'est un équilibre entre les deux, à se dire ok, je suis pas non plus trop rigide sur voilà ce qui va se passer et je fais tout pour ça.
Suive ton intuition.
Et suive ton intuition quotidienne, ouais. On revient à ça. Hein.
Ouais. C'est
autant pour la création de contenu que pour ta vision.
Pour tout, pour tout. Après, je suis d'accord effectivement qu'il faut avoir une vision. Moi, ma vision, comme je te l'ai expliqué ce midi, elle est très, elle est très basique. Hein. C'est juste pouvoir vivre ma vie et faire ce que j'ai envie quand j'en ai envie, quoi. Donc effectivement, si demain j'ai un gros projet, tu vois, qui nécessite beaucoup d'argent et que du coup, ben là, d'un coup, j'ai besoin d'argent, tu vois, pour atteindre cet objectif-là. Peut-être que du coup, je mettrai en œuvre des actions qui vont tendre vers
ça, quoi.
Vers ça, mais là, tout de suite, j'en ai pas, en fait. Juste, j'avance, je découvre des trucs, je me casse la gueule parfois sur des trucs que j'avais pas prévus, et voilà, je vis, tout simplement.
Ouais, ben, je trouve que c'est justement la belle liberté qu'on a en étant indépendant, c'est de se dire, J'ai entièrement contrôle sur les choses et je peux choisir d'accélérer, de grimper encore, de grimper encore, de grimper encore, ou juste de me dire, bah là je suis bien, restons comme ça.
Ouais, c'est exactement ça,
et
quand t'as besoin...
Structurons pour que ça reste comme ça pendant le plus longtemps possible.
C'est ça, quand t'as besoin de te calmer parce que tu ressens de la fatigue ou des choses comme ça, tu peux te dire, ok, bah on est le 1er novembre et je bosse plus jusqu'à Noël. Tu vois, ça peut être un choix que tu peux faire. Ou alors au contraire, tu peux te dire... Ouais, j'aurais besoin d'argent en 2020, du coup, là, je vais carburer tout de suite, parce que c'est maintenant qu'il faut rentrer de l'argent, par exemple.
Ouais, et on prépare la suite, quoi.
Ouais.
Avant d'arriver sur les dernières questions rituelles de clôture de la discussion, j'aimerais bien parler de la prochaine étape que tu prépares avec Julie, du coup, ta binôme. Vous êtes en train de vous scinder ensemble pour créer une société.
Ouais.
Alors que vous étiez auparavant collègues, mais chacune avec votre activité propre.
Oui.
C'est quoi la réflexion derrière ça? Enfin, comment vous construisez un peu le truc? Est-ce que tu peux nous raconter?
Alors, on a eu deux constats principaux. Le premier constat, c'est qu'on avait besoin de déléguer du travail, parce que j'ai beaucoup de leads entrants, plus d'une vingtaine par semaine, que je suis obligée de refuser aujourd'hui, parce que on n'a pas le temps. Et donc, pour se dégager du temps, il faut qu'on délègue. Et pour déléguer, il faut sous-traiter. Et pour sous-traiter, il faut une société. Tu peux pas faire ça en micro, c'est trop compliqué, tu perds de l'argent au final. Hein, quand tu fais tous tes calculs, c'est impossible de le faire sereinement. Donc, voilà la première conclusion. On a besoin d'une société. La deuxième, c'est parce que si tu regardes mes rapports de revenus, tu vois toutes les charges que je paye par mois. Je crois que sur le dernier, ça montait jusqu'à 2005.
Ouais.
Et...
Parce qu'au-delà des 34%...
Et quand tu sais aussi... que toutes ces charges par rapport au logiciel, par rapport aux outils, par rapport à de la pub, etc., ça peut être pris en charge par une société.
Tu te poses des questions.
Voilà, tu te dis, non, là, stop, en fait. Ouais. Parce que tout ça, finalement, ça sort de, tu vois, de ma poche, vraiment.
Ouais, alors, bah,
normalement,
ouais.
Ça devrait sortir de la poche de la société. Enfin, bref, rien n'est... Si tu veux, là, on arrive à un point où la micro n'est plus du tout adaptée.
Ouais.
Donc... La seule conclusion qui nous reste, c'est...
Société, quoi.
La société.
Et pourquoi, du coup, c'est une société ensemble plutôt que chacune la vôtre ?
Parce que on va toutes les deux dans le même sens, on a les mêmes valeurs. Ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble et en 3 ans, il n'y a pas eu, tu vois, de choses où on s'est dit, tiens, mais qu'est-ce qu'on fout à travailler ensemble, quoi. Ça a toujours été fluide, même hyper fluide entre nous, sur, voilà, sur ce qu'on voulait faire de notre vie. Sur nos valeurs, sur...
Du coup, ça faisait sens, en fait.
Ouais, sur notre humour, même, tu vois.
Ouais, c'est intéressant parce que il y a toujours une étape, je pense, dans une vie de freelance où tu dois passer au niveau 2.
Ouais.
Tu dois level up et évoluer. Tiens, tu joues encore à Pokémon ou pas?
Ouais.
Du coup, c'est un peu l'évolution,
ouais,
quoi.
C'est ça. C'est ça, on se transforme en... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre?
Quel Pokémon tu prends?
Ah, je pense que je vais prendre Papillusion.
Papillusion.
Ouais.
Trop cool. Bah du coup tu te transformes et ouais t'as plusieurs choix à faire en fait. C'est quoi la suite? Est-ce que je suis un entrepreneur individuel encore? Est-ce que je monte une agence? Certaines personnes voudraient monter une agence.
Oui.
Je sais que vous voulez pas embaucher par exemple.
Ouais.
Est-ce que j'embauche? Et du coup effectivement c'est plein de questions à se poser et je pense que c'est intéressant de voir c'est quoi la réflexion derrière parce que pour l'instant il y a la grande majorité, je pense, des freelances qui se lancent ne conçoivent pas encore d'arriver à ce stade, mais au final, il arrive. Et c'est quoi la prochaine étape? C'est une grosse question, quoi.
Ouais.
Est-ce que je reste dans le même format de, je suis un peu artisan et je produis tout seul? Est-ce que je grandis, je sous-traite, je prends des salariés? Est-ce que je développe d'autres choses? Des produits, par exemple? De la formation, comme tu fais déjà en micro, mais certaines personnes passent direct à la société pour ça?
Ouais.
Plein de questionnements, quoi.
Je pense que, il faut que ce soit fluide. Nous, c'est fluide parce que ça correspond à nos besoins, en fait. C'est la solution à nos problèmes.
Ouais.
Et que ça nous... Donc oui, ça nous fait peur, évidemment. Mais ça reste, tu vois, dans la continuité de ce qu'on a toujours fait. Donc,
ouais.
C'est pas brutal, quoi. C'est-à-dire, ça nous fait pas mal.
Ouais.
Ça va. Ça va. Et surtout, moi, ça répond à un besoin que j'ai. J'ai envie de donner des contrats à des freelances qui débutent, à des bébés freelances, parce que j'aurais trop aimé qu'on m'apporte un contrat sur un plateau en me disant, ben voilà, ça c'est le brief.
Ouais.
Ça aurait été génial. Et je sais que j'ai des très très bons freelances dans ma communauté, et je veux pouvoir à un moment donné...
Leur rendre, quoi.
C'est ça. Leur dire, ben voilà, là c'est ton tour, tu vois.
Ouais.
Genre là, le karma, il est pour toi. Et c'est toi que j'ai choisi.
C'est
et
cool.
Et je veux que tu bosses sur ce contrat avec nous.
Je trouve que c'est une belle récompense aussi de la fidélité de ces personnes qui te suivent depuis, depuis tant d'années aussi.
C'est trop important, franchement, c'est trop important.
Ouais, on en parlait encore une fois en marchant. Quand j'ai des retours des personnes qui suivent ce podcast ou qui sont dans mon programme d'accompagnement ou qui commandent des articles ou des choses comme ça et qui me disent « Putain, merci, c'était trop bien, j'ai appris plein de choses », je me sens missionné de continuer à leur donner, en fait.
C'est ça. Tu sais que j'ai fait des cauchemars là, ces 6 derniers mois. C'était trop bizarre parce que je fais jamais de cauchemars. Et j'ai fait des cauchemars où le blog s'arrête.
Ah ouais. Et pire où, cauchemar du monde, quoi.
Je me réveille le matin. Je suis persuadée que je n'ai plus le blog dans mon emploi du temps, tu sais.
Ah ouais.
Et je suis là. Ok, sens de ma vie existe-t-il toujours?
C'est intéressant, hein.
C'est fou. C'est fou à quel point ça a pris, tu sais, une place hyper importante dans ma vie. Et à quel point j'ai l'impression que c'est ma mission.
Ouais.
C'est exactement ce que tu dis.
J'ai l'impression que c'est
ma mission. Et que, tu sais, si je publie pas un article de blog un lundi soir, comme tous les lundis soirs, je vais me sentir un peu mal.
Ouais.
Tu sais, je vais me dire, putain, c'est un rendez-vous manqué quand même.
Ouais.
C'est très bizarre.
Ouais, c'est bizarre. Hein. Mais moi, avec le podcast, c'est pareil. Si j'ai pas un épisode tous les jeudis matin à 9h, et il y a plein de fois où je suis resté debout jusqu'à 2-3 heures du mat le mercredi soir, il faut que je finisse d'écrire cet article pour le podcast.
Ouais.
J'ai l'impression, d'avoir failli à ma tâche.
Ouais, c'est fou, hein. Alors qu'en fait, on n'a pas de boss.
Non, c'est clair.
On a personne au-dessus de nous, c'est juste notre conscience pro qui prend le relais, quoi.
Et ce que je trouve super puissant là-dedans, et c'est une invitation pour tous les gens qui nous écoutent, quand vous trouvez des gens pour qui vous êtes prêt à vous dépasser à ce point, c'est ça vos clients idéaux, en fait.
Ah, c'est clair.
Et vous êtes vraiment au bon endroit. Si vous avez cette hargne et vous vous sentez missionné de faire des choses pour eux, lâchez rien, quoi. Ça va venir et continuer de dépasser les challenges en un pour les servir, en fait. Parce que quand tu sers les autres et que t'es prêt à te dépasser pour les autres, c'est là où tu crées les trucs les plus ouf.
Et puis surtout que chaque retour après te fait un effet, c'est très bizarre.
Ça nourrit la flamme.
Ouais. Ouais, moi, c'est comme si on me donnait des gnocchis fourrés au fromage tous les jours.
Ça continue, les gnocchis. Est-ce que du coup, là c'est la prochaine question, c'est celle de ta plus grosse galère en freelance? Est-ce que t'as vécu un moment où ton supermarché n'avait plus gnocchi?
Ouais.
Ça devait être horrible, non?
C'était assez pénible. Hein. Je mangeais pas trop de gnocchi à cette époque quand même. Mais oui, ça m'est arrivé de perdre mon plus gros client à l'époque qui représentait presque 80% de mon chiffre d'affaires, c'est-à-dire tout. Hein,
ouais.
Parce qu'à cette époque-là, on était en 2016, je crois. Et je devais avoir au total en chiffre d'affaires 1 200 € par mois, brut, tu vois,
ouais,
même pas net,
genre 900 euros de lui, quoi.
Ouais, c'est ça. Donc vraiment, ça me prenait tout, hein. C'est-à-dire qu'il me restait même plus de quoi payer mon loyer, en fait.
Ouais.
Il devait me rester 250 €, quelque chose comme ça.
Du coup, d'ailleurs, grosse reco pour les gens qui nous écoutent, si vous avez aujourd'hui un seul client, bougez-vous le cul.
Ouais.
Mauvaise idée.
Vraiment. Et je l'ai perdu du jour au lendemain, hein, presque. Mmh. C'est moi qui lui ai mis un petit ultimatum, je lui ai refaire passer un devis et tout, parce que voilà, il me faisait faire des choses qui n'était pas prévu de base, donc je lui ai dit, je te refais un devis qui correspond à ce que je fais réellement pour toi à l'heure d'aujourd'hui.
Ouais.
Et en fait, il l'a refusé, et il m'a dit, on arrête tout. Et donc, j'ai dit, ok, j'ai joué quitte ou double, j'ai perdu, tant pis. Et, sauf qu'il me restait vraiment plus rien. Donc, j'ai badé un petit moment à me dire, ok, qu'est-ce que je vais faire?
Ouais.
J'ai cherché sur Internet, j'ai tapé comment trouver des clients en freelance.
Je lisais l'article
la
ce
requête,
matin aussi.
La requête classique, voilà. Et puis, je me suis dit, Julia, ça sert à rien, tu vas pas trouver une solution dans les 10 minutes, en fait. C'est pas maintenant qu'elle va tomber, la solution. Donc, faut arrêter. Juste, tu vas faire autre chose. On était vendredi après-midi. Je suis partie en week-end. J'ai essayé de chasser ça très loin au fond de mon cerveau. Et le lundi ou le mardi, ça a pas tardé, hein, quelque chose comme ça, j'ai eu un petit mail d'un monsieur que je connaissais pas, qui s'appelle Jérôme, et qui m'a dit, Julia, cherche quelqu'un pour travailler avec moi, minimum 2 heures par jour pendant un an. J'ai dit, ok, allons-y, quoi.
Et c'est là où t'as rencontré Julie, je crois, non?
Et c'est là où j'ai rencontré Julie, parce que Julie travaillait pour Jérôme depuis déjà 5 ans.
Comme quoi. Si t'avais jamais pas perdu ce gros client.
Ouais, c'est vrai.
Tu serais peut-être pas où t'en es aujourd'hui, quoi.
C'est vrai, c'est fou.
Du coup, faut célébrer le fait de perdre des gros clients, parfois.
Bah ouais, et puis surtout que tout est lié, tu vois. Je pense que rien n'arrive par hasard du tout, quoi. Et effectivement, et Jérôme m'a appris énormément de choses aussi, parce que lui, il avait plusieurs sites e-commerce. Il m'a appris beaucoup de choses que je connaissais pas. Et voilà, et on a fait la fête avec Julie et Jérôme. On a célébré les ventes.
Un vrai client idéal,
sites
quoi.
Web. Ouais, c'était fou. C'était fou.
Trop bien. Et du coup, si tu te retrouvais face, basé sur tout ce qu'on a dit là, si tu te retrouvais face à, à Julia, bébé freelance.
Julia 2013.
Julia 2013, c'est son premier jour, elle ouvre son ordi, elle se met à travailler, elle se dit « mince, qu'est-ce que je fais, j'ai trop de temps libre ».
Ouais.
C'est quoi le conseil majeur que tu lui donnerais avec ses 6 années d'expérience ?
Fais toujours ce qui te semble bon.
Écoute-toi et fais toujours ce qui te semble bon.
Fais toujours ce qui te semble bon. Cool. Si t'as envie de travailler toute la nuit, travaille toute la nuit, ça te servira à un moment donné. Mmh. Si t'as envie de dormir toute la journée, dors toute la journée, c'est que t'en as besoin. Si t'as envie d'envoyer chier cette personne, il faut que tu l'envoies chier parce que ça sert à rien. Enfin, de toute façon, tu n'es pas diplomate et tu ne le seras toujours pas en 2019. Donc, envoie chier cette personne, c'est pas grave. Et si tu as envie de faire confiance à une autre, bah fais-le aussi. Suis ce que te dicte ton cœur.
Trop bien.
Parce que il y a que ça qui fonctionne vraiment. Si tu fais des choses à contre-cœur, ça se ressent à un moment donné et en fait la vie te fait payer le fait que t'es menti entre guillemets, tu vois.
Que tu t'es menti à toi-même.
Ouais,
presque.
C'est ça. Donc, faire confiance au karma aussi. Si quelqu'un vous fait subir une injustice, pour celles et ceux qui nous écoutent, juste se concentrer, non pas en fait sur l'injustice qu'on a subie, mais plus sur le karma qui retombera sur cette personne. Parce que ça finit toujours par retomber, vie pro, vie
et
perso.
Et te demander du coup, peut-être même plus, comment moi, est-ce que j'apporte quelque chose de bon pour nourrir mon karma dans le bon sens face à cette injustice.
C'est ça, toujours être dans la bienveillance, dans le partage, dans la compréhension. Et surtout, ne pas se mentir à soi-même et être soi-même, c'est la meilleure façon de communiquer et la façon la plus simple de communiquer, en fait.
C'est clair.
Parce qu'on n'a pas besoin d'inventer quoi que ce soit.
Ouais.
Il y a juste besoin d'être soi-même, de parler comme on parle. Et...
Donc, ne vous forcez pas à faire des stories Instagram toute la journée si ça ne vous inspire pas.
Voilà, exactement.
Cool, c'est chouette comme retour. Et du coup, encore une fois, basé sur tout ce qu'on a dit, et ta question aura peut-être changé depuis tout à l'heure, mais... Si t'as une question que t'as envie de poser aux auditeurs cette semaine pour qu'ils réfléchissent à leur activité, où est-ce qu'ils vont et comment est-ce qu'ils avancent dans la semaine qui suit, pour pas se projeter dans 5 ans mais au moins sur une semaine, c'est quoi la question que t'as envie de leur poser?
Alors la semaine prochaine, c'est trop dur, j'en ai plein.
Tu peux en dire plein et ensuite en choisir une si tu veux, comme ça ils en ont plein et après ils focusent.
Alors la semaine prochaine, je voudrais que tu réfléchisses à ce que tu vas produire en contenu pour que ce soit totalement en adéquation avec qui tu es sur les réseaux ou sur ton blog ou sur ton podcast
peu importe.
Ou sur ta chaîne YouTube peu importe
enfin, où tu produis quoi
voilà
du coup c'est quoi le contenu que tu vas créer cette semaine qui te ressemble à
100% c'est ça qui est toi
c'est
qui
cool
est vraiment
ça.
Toi
trop bien et du coup comme tu disais ça peut être audio ça peut être écrit ça peut être vidéo lâchez-vous et peut-être créer quelque chose de nouveau d'ailleurs si vous faites que de l'écrit et que la vidéo vous inspire, c'est le moment.
C'est ça, faire des tests, faut tester, il y a des choses que vous allez tester, que vous allez détester et que vous vous direz oh là là mais qu'est-ce que j'ai fait n'importe quoi, mais au moins vous aurez essayé et des trucs que vous allez tester, vous allez vous prendre au jeu. Par exemple j'ai des clientes qui se sont mis à faire de la story justement et qui se disent oh non je veux pas faire des stories et tout, et ben elles se sont mis à faire des stories
et en fait
et leur business a décollé.
C'est incroyable.
C'est fou.
Juste parce qu'elles sont autorisées à tester, quoi.
Juste parce qu'elles ont testé et qu'elles sont sorties de leur zone de confort pour essayer un autre format. Ouais, c'est fou.
Il y a un truc que tu viens de dire, je viens d'avoir une réalisation.
Oula.
T'as dit tester et détester.
Ouais.
Genre, si tu sépares en deux, c'est genre enlever le test quand tu détestes quelque chose. Je sais pas, je trouve ça drôle. Voilà.
Ouais.
Comme si tu, quand tu détestes un truc, c'est juste, ben voilà, je fais marche arrière et j'arrête de le tester et je vais dans un autre chemin.
Et ça, c'est super important. On en a pas parlé, mais ça fait partie quand même de ma grosse, comment on dit déjà, un truc, tu sais, que tu fais.
Tes convictions.
Ouais. Ou vraiment un truc que je fais dans mon quotidien tout le temps. Je teste des trucs. Et il y a plein de trucs que je teste. Hein. Je teste peut-être, je sais pas, 50 choses différentes par semaine.
Ouais.
Et il y en a 90 qui sont pourries. Vraiment. Vraiment, il y en a 90 qui sont pourries. Il y en a que 10 de bonnes.
Mais les 10 qui restent...
Mais elles sont... Ouais, elles sont généralement très bonnes.
Ouais.
Mais c'est surtout que ça m'aide à avancer aussi, à faire le tri de ce que je veux et de ce que je veux pas.
Ouais.
Et ça, c'est trop, trop important. Et c'est ce qui m'a aidé à vraiment, vraiment... Bah, être là où j'en suis aujourd'hui, parce que j'ai testé 1 million de trucs.
J'aime bien, il y a une phrase de Thomas Edison quand il essaie d'inventer l'ampoule. À un moment, il foire encore et quelqu'un lui dit « Non, mais arrête, t'y arriveras pas, ça marchera jamais. » Et il dit « Bah, peut-être que ça marchera jamais, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai trouvé X, on va dire, 999 manières que ça ne fonctionne pas. » Donc peut-être, mais en tout cas, j'avance en trouvant des manières dont ça ne fonctionne pas, et je trouve ça trop bien comme réflexion. Ben,
non, mais c'est trop important.
T'apprends, quoi.
C'est trop important.
Cool. Merci, Julia, pour tout ça.
Avec plaisir.
J'espère que les auditeurs ont bien kiffé cet épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens ont envie de t'envoyer encore plus de messages pour discuter avec toi? Je sais que t'en reçois déjà beaucoup. Mais s'il y a des auditeurs qui te découvrent et qui veulent t'envoyer de l'amour ou t'envoyer des questions qu'ils ont par rapport à l'épisode, où est-ce qu'ils peuvent te contacter?
Sur Instagram. Ou quand j'ai pas le temps, je réponds en audio. Donc, je réponds beaucoup en audio en ce moment.
Ah, c'est cool.
Voilà. Sur Instagram, essentiellement. Sur Facebook, je suis là, mais moins.
Okay.
C'est moins évident pour moi de répondre aux messages en plus, donc Instagram, c'est vraiment parfait.
Je mettrai le lien dans la description de l'audio, c'est I don't think sur Insta. Il y aura un lien dans la description.
Et sinon directement sur le blog pour apprendre de nouvelles choses.
Pareil, je mettrai le lien dans la description. Merci beaucoup.
Et merci à toi.
À ceux qui nous écoutent, à la semaine prochaine.
Oui.
Bye.
Salut.
J'espère que cet échange avec Julia t'a plu, t'a apporté des clés concrètes sur ton activité et notamment sur la création de contenu. J'adore son invitation en fin d'épisode à réfléchir sur un format de contenu qui te ressemble à 100%, et ça me donne envie d'appuyer sur un point que je trouve vraiment essentiel pour notre business d'indépendant. De base, nous sommes tous des êtres uniques. Personne n'a vécu les mêmes choses que toi, personne n'a exactement les mêmes passions, le même regard sur le monde, la même sensibilité, les mêmes idées, les mêmes pensées. Et j'adore cette idée que si tu crées une offre, des services, et plus globalement une activité de freelance, qui est simplement la traduction de ton unicité en tant que personne, que ça élimine toute notion de concurrence. Parce que c'est vrai, personne ne peut être un meilleur toi que toi. Donc si ce que tu vends et que tu proposes à tes clients, c'est simplement toi, personne ne peut faire ça mieux que toi. Je t'invite vraiment à réfléchir à ça. À quoi ça ressemble une activité qui te ressemble parfaitement ? Si tu apprécies ces questions, qu'elles t'aident à cheminer dans ton activité, ça me serait d'un immense soutien que tu mettes une note de 5 étoiles et un commentaire positif sur Apple Podcast, ou si tu n'es pas utilisateur Apple, que tu partages cet épisode autour de toi avec un autre indépendant ou quelqu'un que ça peut inspirer. Sinon, je te dis un grand merci pour ta confiance et ton écoute chaque semaine, et je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.